projet de bouclier de professeur de français contre l'inscription des mémoires de guerre du général de Gaulle au programme des classes terminales, des inscriptions de Céline au répertoire des célébrations nationales du ministère de la Culture, polémique dans le milieu des historiens autour du bien fondé d'un musée de l'histoire de France. La France semble embarrassée, pour ne pas dire troublée, par son rapport au passé, à ses acteurs et à ses événements. Un rapport où la confusion entre célébration et commémoration, grand récit national et éclairage du passé, semble totale. Pour nous aider à dissiper cette confusion, ce malentendu, j'ai invité aujourd'hui dans la revue des revues Jean-Louis Janel, qui a coordonné le dernier numéro des Temps modernes, numéro de novembre-décembre 2010, consacré à De Gaulle, la France et la littérature. Et vous êtes par ailleurs l'auteur de « Écrire ses mémoires au XXe siècle » qui est paru en 2008 chez Gallimard. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et Jean-Claude Monod, philosophe, qui a préparé le dossier de la revue Esprit de janvier 2011. Autour de la question « Que faire de la mémoire des guerres au XXe siècle ?» Bonsoir.
Bonsoir.
Mais merci de nous avoir rejoints dans la revue des revues. Pour commencer, j'aimerais demander à Jean-Louis Janel, d'un point de vue presque anecdotique, comment se fait-il que les temps modernes réhabilitent De Gaulle, eux qui l'ont si longtemps combattu?
Oui, ça m'étonne moi-même, à vrai dire. Mais c'est une aventure un peu assez amusante, à vrai dire. Quand j'ai vu la polémique qui se déclenchait, je me suis dit qu'il était important d'y réagir et de reprendre la question à un autre niveau qu'au niveau polémique qui avait été... celui des échanges d'articles de part et d'autre dans les journaux, et qu'il est donc important d'y réfléchir. Et j'ai cherché une revue qui pourrait accueillir ce thème. Il y en avait beaucoup, à vrai dire, mais il m'a semblé, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est la lecture des mémoires de Lanzmann, Claude Lanzmann, Lièvre de Patagonie, que j'avais énormément aimé, et au début duquel Lanzmann dit son admiration des mémoires du général de Gaulle, ce qui est un peu inattendu de la part de celui qui est l'héritier de... au temps moderne, à la direction des temps modernes, de Sartre, la revue la plus anti-gaulliste de l'époque. Donc j'ai eu l'idée de proposer au temps moderne, au comité de lecture des temps modernes, ce projet de numéro qui n'était pas encore constitué, et ils ont accepté immédiatement, ce qui a été pour moi réellement très important. Je voulais dissiper d'emblée l'espèce de malentendu qu'il pourrait y avoir à constituer un numéro autour des mémoires de Gaulle, le malentendu idéologique, je veux dire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a dans la défense et dans le travail, le seul fait de travailler sur les mémoires de Gaulle, une sorte de positionnement idéologique implicite.
Ah oui, donc vous avez pris le contre-pied, si on peut dire.
Donc je voulais prendre le contre-pied immédiat, et la seule solution, c'était à mes yeux d'être autant moderne.
Oui, parce que je cite juste rapidement cet éditorial étonnant de Lanzmann, qui lit De Gaulle sans œillères et préjugés, se convainc qu'il mérite pleinement d'appartenir à la littérature française et d'être enseigné en tant qu'écrivain. Mais nous allons y revenir. Oui. Et c'est bien Lanzmann, je n'ai pas
parlé. C'est Lanzmann qui écrit
« Nous avons aimé De Gaulle pendant la guerre, nous l'avons plus tard combattu, nous avions raison de le faire, mais nous le méconnaissions. » Donc on va se demander si...
C'est un geste fort.
On va se demander si une réhabilitation dans la commémoration, ça peut être aussi l'un des problèmes qu'on aborde. Mais bon, plus généralement, pourquoi commémorer et que commémorer? C'est-à-dire, j'aimerais qu'on se demande, est-ce que commémorer, c'est, comme vous le dites dans votre ouvrage, Jean-Louis Janel, un acte de nature religieuse, un acte politique de sélection et de valorisation, Jean-Louis Janel?
Ça peut être ça, enfin c'est ça à un niveau national, indubitablement, il ne faut pas se le cacher. À vrai dire, dans le fait de mettre De Gaulle, le cas est un tout petit peu différent ici, le fait de mettre De Gaulle au programme du bac ne relève pas de la commémoration. Il s'agit de le soumettre à l'étude critique des professeurs de français. Et l'objectif de ce numéro était de montrer que les professeurs de français ont les outils nécessaires pour étudier, lire, critiquer les mémoires du général de Gaulle, qui ne sont pas lisibles en dehors d'une approche d'ordre critique dont Barthes, dans un célèbre article qu'il avait écrit à l'époque, fournit un petit peu le modèle.
C'est-à-dire
un modèle, une sorte de distance à l'égard de la construction historique, de la représentation historique qui est celle de auto-représentation historique qui est celle de Gaulle. Une sorte de méfiance à l'égard des moyens rhétoriques et stylistiques qu'ils mettent à l'œuvre. Qu'il ne s'agit pas de critiquer de manière systématique, mais à l'égard desquels il s'agit d'adopter une certaine distance.
Oui, mais vous disiez tout de même que, hors antenne, que le choix justement de ces mémoires était lié aussi à l'anniversaire du 18 juin. On est quand même dans une ambiance de alors comment vous appelez ça?
Alors, on est dans une ambiance de célébration et de réhabilitation.
Ouais.
À mon avis, le fait de choisir, d'avoir choisi les mémoires de Gaulle n'est pas en soi un acte, il l'est, bien sûr, idéologique, tout est idéologie de ce point de vue, mais L'erreur a été, à mon avis, de mettre le troisième tome, c'est-à-dire le salut, celui de l'instauration d'un programme qui sera celui de la Ve République, qui est déjà, et au moment où De Gaulle publie ce troisième tome, c'est-à-dire en 1959, il est revenu au pouvoir depuis pratiquement un an, il a déjà mis en place cette Ve République. Donc c'est vraiment ce tome, il y a une sorte de jeu de superposition des temporalités, alors qu'il parle de la libération, il est en train, en réalité, de décrire le programme et de justifier, de légitimer le programme qui est celui de la Ve République. Donc de ce point de vue, mettre ce troisième tome au programme était un choix relativement maladroit. Le premier aurait été plus justifié d'un point de vue littéraire et historique, à mon avis. Le troisième, qui traite avant tout de politique, est vraiment mal choisi lorsqu'il est destiné à des élèves de terminale.
Mais alors, au-delà de la personne, donc du général de Gaulle, est-ce que on peut dire que de Gaulle, comme d'une certaine manière, comme Jean-Claude Monod, je vous donne la parole tout de suite, le débat autour du musée de l'histoire de France, entre guillemets, pose problème à savoir ce qu'on fait de notre passé?
Vous posez la question sur De Gaulle
plus généralement, cette polémique autour de De Gaulle, on va la retrouver d'une certaine manière avec donc la commémoration du 18 juin, ce musée d'histoire de France. Comment se fait-il que... est-ce que c'est par goût gaulois de la polémique ou plus que ça, quand même?
Non, je pense qu'il y a des enjeux assez effectivement importants, d'autant qu'effectivement, Nicolas Sarkozy, comme d'autres présidents avant lui, mais peut-être sur un mode assez particulier, investit l'histoire d'une manière assez active. Il y a eu plusieurs initiatives, donc le musée de l'histoire de France est la dernière initiative, mais il y a eu plusieurs gestes, et donc il y a toujours une interrogation pour savoir dans quelle mesure c'est un usage justement qui vise vraiment à rendre hommage à des figures du passé, dans quelle mesure c'est un usage plus à viser de légitimation de sa propre action, dans quelle mesure
de son action présente, oui.
De son action présente, dans quelle mesure c'est un usage aussi qu'il faut corréler, disons, avec la mise en avant du thème de l'identité nationale et qui vise à envoyer des signaux de ce côté-là, disons, à un électeur mettons de droite assez dur. Donc il y a, je pense, forcément une interrogation sur ces gestes. Alors bien sûr, De Gaulle est une figure qui est aujourd'hui qui fait quasiment l'unanimité. Alors il y a eu une extraordinaire évolution, hein, il faut bien dire, de ce point de vue là et je pense que oui, le numéro des temps modernes en est le signe quand on repense à des articles de Sartre d'une grande âpreté. Peut-être d'ailleurs ça se comprend, la révision se comprend, parce qu'il y avait évidemment des grands excès dans les attaques contre De Gaulle. En même temps, on peut s'interroger peut-être sur une trop grande unanimité. Donc je pense que le fait qu'il y ait eu polémique, moi, ne me surprend pas et ne me fâche pas. Je trouve que c'est assez normal qu'on s'interroge sur la question de savoir s'il n'y a pas de plus grands écrivains à honorer et à inscrire au programme que De Gaulle. Donc, mais ça traduit certainement ces difficultés. Et vous l'avez bien dit au début aussi, on a du mal, mais je pense que c'est une vraie difficulté à tracer des frontières strictes entre célébration, commémoration. Est-ce que inscrire au programme de littérature, c'est un geste d'ailleurs d'hommage à un écrivain, à un homme politique, c'est un geste de célébration, c'est un geste de reconnaissance pure d'une qualité littéraire? C'est assez difficile. Et donc le trouble naît aussi de certaines incertitudes dans la présentation même. C'est comme ce catalogue qui est présenté par le ministère et le ministre de la Culture de ce qu'il faut commémorer dans l'année.
Oui, bah,
avec Céline. Alors, est-ce qu'on célèbre un homme? Est-ce qu'on célèbre une œuvre? Oui, on peut très bien se dire qui serait bien bon de... Mais voilà, enfin, c'est ces questions de délimitation entre l'hommage parfois à une œuvre, l'hommage... Est-ce que l'hommage à une œuvre implique hommage à un homme?
Mais justement,
ces questions-là sont complexes, je pense.
Mais plus fondamentalement, pour vous, je reprends ma question, c'est la commémoration, c'est un acte de... Je crois que je vous cite, Jean-Louis Janel, un acte de nature religieuse, puisque vous dites vous-même que ça vise à proposer la piété des concitoyens des personnages, des lieux, des dates, ou c'est un acte politique clairement assumé? Bon, vous faisiez référence au président de la République actuel et au choix de mettre en valeur telle figure plutôt que telle autre. Et sous question, est-ce qu'il en est de même dans la mémoire des guerres, pour revenir à votre thème, c'est-à-dire
Je pense qu'il y a une
qui célèbre-t-on, qui commémore-t-on dans les guerres, des victimes, un passé?
Alors, sur la mémoire des guerres, je pense que justement ce numéro d'esprit essayait d'interroger plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est celui précisément de la victoire sur, par exemple, le nazisme en l'occurrence, qui est un niveau proprement militaire et politique indissociablement, et qu'il est tout à fait normal d'ailleurs, évidemment, hein, de célébrer. Il y a un niveau qui est celui éventuellement d'action de certains groupes, de la résistance, donc qui va distinguer à l'intérieur de cette mémoire générale des différents groupes, éventuellement ensuite différentes victimes aussi, et là, c'est, je pense, un effet de la Seconde Guerre mondiale particulièrement.
Donc c'est une mémoire morcelée et...
Oui, mais alors justement, le numéro s'inscrit un peu en faux contre une vision qui s'inquiète à notre sens excessivement de la fragmentation, du morcellement.
La fameuse guerre des mémoires.
La fameuse guerre des mémoires, bon, qui peut être réelle, mais disons, Marc Crépan en particulier s'inquiète plutôt de la volonté du rapport Caspi de simplifier considérablement les commémorations et finalement de n'en retenir que quelques-unes au détriment justement de ce qui pourrait être une mémoire assez disons plurielle qui fait place à la fois à des groupes, et ça n'est pas forcément porter atteinte à l'unité de la nation comme dit l'arbre Caspi, que de parler aussi de telles communautés. C'est plutôt une manière d'ouvrir éventuellement les différentes communautés à la mémoire des autres, aux souffrances éventuellement des autres, et aussi à la mémoire d'ailleurs de l'héroïsme. Donc c'est un peu le numéro est plutôt dirigé contre, si vous voulez, ce thème excessivement à notre sens porté sur la place publique ces derniers temps, qu'il faudra en finir avec la fragmentation, la repentance. On a beaucoup mis en question la repentance. Bon, alors on peut s'agacer éventuellement d'un excès de repentance, mais disons le curseur va un peu trop loin dans l'autre sens en ce moment.
Donc il y aurait une mémoire plurielle. Hein, oui. L'article de Marc Crépan cite l'expression. Cette mémoire plurielle, est-ce qu'elle n'a pas pour conséquence, au fond, de... première conséquence, il pourrait y avoir une surenchère, entre guillemets, des victimes, ou deuxième conséquence, une instrumentalisation. Jean-Louis Janel, j'étais très intéressé dans votre ouvrage par une comparaison de la manière dont les communistes après-guerre se sont saisis de la mémoire de la guerre et de la résistance par rapport aux gaullistes. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que, à vous lire, il y avait une espèce vraiment de construction d'un militantisme grâce à la mémoire.
Il y a une politisation de la mémoire, et le genre des mémoires lui-même en est vraiment l'expression de ce point de vue. On est l'outil principal. Il y a bien eu une lutte des mémoires, du genre des mémoires par le biais du genre des mémoires,
genre
littéraire, tout à fait, entre communistes et gaullistes, et De Gaulle l'a clairement gagné de ce point de vue à ce moment-là, et tous ceux qui l'ont suivi. Le genre des mémoires s'est vraiment assimilé, en fait, s'est vu approprié par la droite nationale à l'époque. Mais il me semble que pour une raison d'identification, le genre des mémoires suppose une sorte de monumentalisation, d'auto-monumentalisation, et de ce point de vue, la geste gaullienne, l'appel du 18 juin, le permettait, alors que le militantisme communiste s'adaptait mal, en quelque sorte, au modèle des mémoires qui suppose qu'un homme prenne sur soi, à travers le récit du parcours de son existence, le parcours qui était celui d'une communauté tout entière, et qu'il puisse y avoir une sorte de jeu d'identification, de renvoi entre le parcours d'une vie et le contexte d'une époque. Ce que l'aventure gaullienne a permis, et les mémoires du général de Gaulle, de ce point de vue, sont un petit peu l'exemple le plus emblématique de ce modèle. Mais il me semble qu'il y a quand même un point important dans ce que vous disiez, c'est que, effectivement, on suppose trop en France qu'il y a une concurrence entre les mémoires. Et ça vient du fait que la mémoire, telle qu'elle est étudiée ici, relève d'une étude de l'histoire nationale, se confond avec l'histoire nationale, que la mémoire est supposée être une sorte de socle sur lequel s'est bâtie l'identité nationale. Et tout le modèle des lieux de mémoire est construit sur ce modèle.
Les lieux de mémoire, donc l'ouvrage collectif de Pierre Nora.
De Pierre Nora. Mais à vrai dire, aux États-Unis, en Angleterre, la mémoire s'étudie de façon tout à fait différente. Il y a de ce point de vue un ouvrage absolument passionnant d'un collègue américain qui s'appelle Michael Rothberg, qui s'intitule Multidirectional Memory, donc mémoire multidirectionnelle. Et ce concept de mémoire multidirectionnelle est tout à fait opposé à la manière dont nous abordons les questions en France, puisqu'il montre que les mémoires ne se concurrencent pas, mais qu'elles se reprennent, la mémoire collective se construit par emprunt continuel. Et à partir de l'étude d'œuvres, de textes, de films tout à fait passionnants, et de corpus français, Duras, Schwarzbart, toute une série d'auteurs, Michael Rothberg montre très bien que mémoire juive, les mémoires, la mémoire des Algériens, des pieds noirs, ou la mémoire de toute une série de communautés se sont construites peu à peu en faisant référence les unes aux autres, en s'empruntant les unes aux autres. Et donc, il y a plus un phénomène d'émulation que de véritable concurrence de ce point de vue.
Merci, nous nous retrouverons après une petite respiration musicale. Nous nous retrouvons dans la revue des revues aujourd'hui, en compagnie de Jean-Louis Janel pour Les Temps modernes, pour le numéro donc de décembre 2010 sur De Gaulle, la France et la littérature, et Jean-Claude Monod autour du numéro d'Esprit de janvier 2011, Que faire de la mémoire des guerres au XXIe siècle. On a vu la difficulté de s'accorder sur une forme de commémoration, un but, identifier un but ou plusieurs des commémorations. J'aimerais qu'on revienne sur sur la question de savoir qui commémore. Finalement, à qui revient ce devoir ou ce droit ou cette liberté de commémorer? Est-ce que c'est les victimes, les historiens, les écrivains? Jean-Claude Monod, spécifiquement autour de la mémoire des guerres, à qui revient ce... Alors, est-ce que d'abord l'expression devoir de mémoire, ça vous convient ou...
Alors, l'expression devoir de mémoire a sa légitimité. Bon, moi, je la discute un peu dans la perspective qui était celle d'une évocation du livre de Ricoeur, dont on a fêté les 10 ans récemment, qui s'appelle La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et dans ce livre, Ricoeur effectue une certaine critique de la notion de devoir de mémoire, précisément dans sa dimension injonctive et dans l'incertitude quant à la question de savoir à qui ce devoir est adressé. Est-ce qu'il s'adresse à l'humanité entière? Est-ce qu'il s'adresse aux autorités politiques? Est-ce qu'il s'adresse à une communauté? Bon, je pense que c'est des difficultés assez réel, et donc Ricoeur propose à la place cette notion de travail de mémoire qui est moins morale et injonctive que précisément elle invite plutôt à une réflexion, un retour dont les agents sont libres ou non sont libres de s'emparer.
Parce qu'au fond, d'après lui, il y a tout à fait des événements qu'on pourrait à bon droit oublier et d'autres.
Alors c'est cette question de l'oubli, c'est le revers de la question de la mémoire. D'ailleurs, donc le livre de Ricoeur se finit sur la question de l'oubli, et au fond c'est une question qui était déjà soulevée par Nietzsche dans les considérations inactuelles, c'est la question de savoir dans quelle mesure nous avons aussi besoin de l'oubli. Alors évidemment, si on applique ça à la mémoire des guerres, en particulier à la mémoire de la Shoah, c'est quelque chose de tout à fait choquant.
Oui,
c'est pour ça que d'ailleurs je pense que la première version de ces idées chez Ricoeur a pu choquer dans la conférence qu'il avait donnée à la Sorbonne, la conférence Marc Bloch, où il avait l'air de diriger cette notion, cette critique de du devoir de mémoire et
réservé à...
Voilà, donc et là on entrait dans cette question de la concurrence des mémoires, dans éventuellement l'impression d'une polémique dirigée contre une sorte d'exclusivisme de la mémoire de la Shoah, et éventuellement avec des relents relativement malsains. Donc, mais il me semble que dans le livre de Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, on voit qu'il cherche plutôt à sortir par le haut de cette question, en faisant de la mémoire de la Shoah une sorte de point de retournement, à partir duquel finalement la mémoire des crimes, la mémoire des victimes, au fond s'impose presque universellement.
Reviens à ma question, qui la prend en charge cette mémoire?
Alors qui la prend en charge? Je pense que c'est forcément les autorités politiques qui sont chargées d'organiser des commémorations et éventuellement de les inscrire dans des catalogues officiels et de fournir des fonds d'ailleurs pour assurer ces commémorations. Mais les demandes de commémoration ou de célébration proviennent de toutes sortes d'instances, toutes sortes de communautés, et ça, à mon avis, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, c'est la société civile qui émet aussi des demandes de reconnaissance. Et au fond, les demandes de reconnaissance, il ne faut pas forcément les traduire. Ça peut être une demande qui participe du travail de l'égalité, d'une certaine façon. Parce qu'il y a une manière de décrire ces demandes de reconnaissance comme étant forcément des demandes particularistes, de fragmentation, ouais, etc. Mais au fond, c'est aussi des demandes de reconnaissance du mal fait à, et éventuellement de l'égalité lésée. Alors là, je pense plutôt à la mémoire de l'esclavage. Qui est quand même traité souvent sur un mode extrêmement négatif, sur ce mode, ce sont des communautés qui tout à coup réclament, alors que, au fond, et donc c'est anti-républicain, mais on peut dire que la République s'honore à reconnaître le tort qu'elle a fait aussi, et la façon dont elle n'a pas, réalisé dans les faits une égalité qu'elle proclamait dans ses discours. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi matière à discuter une présentation sous l'angle exclusif de la fragmentation. Et donc, cette notion, je ne connaissais pas l'ouvrage que vous citiez, mais de mémoire multidirectionnelle, me semble effectivement beaucoup plus.
Donc pour vous, c'est pas du tout le boulot, j'allais dire familièrement, d'un historien.
L'historien, c'est autre chose. Enfin, l'historien,
d'un historien ni d'un écrivain. Je pose la question à Jean-Louis Janel.
Donc, d'un écrivain, et surtout.
C'est intéressant que vous, c'est vraiment un acte politique. La commémoration, c'est l'affaire des institutions, de l'État et de la société civile, si je vous ai bien compris.
La commémoration officielle, oui. Ensuite, bien sûr, il y a des multiples manières de rendre hommage à une mémoire et de s'emparer. Et d'ailleurs, donc le numéro d'esprit évoque aussi ce qu'on peut considérer comme un grand travail de mémoire, qui est ce livre très beau de Daniel Mendelssohn, qui s'appelle Les Disparus. Mais là, c'est Non, c'est un travail sur six membres de sa famille qui ont effectivement péri dans la, dans le génocide. D'ailleurs, pas dans les camps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre, aussi, c'est pour essayer de montrer que il y a éventuellement dans la présentation officielle de la mémoire, parfois quelque chose de simplificateur. Donc, on ne parle éventuellement que des camps, alors que le génocide s'est passé aussi sur des modes assez divers et parfois beaucoup plus artisanaux, si j'ose dire. Et ce travail de Mendelssohn part de sa famille, donc de quelque chose de très particulier, et en même temps une portée évidemment beaucoup plus large, puisqu'il essaye de restituer 6 vies, 6 sur 6 millions, comme c'était le sous-titre du livre en anglais. Et donc là, on a... mais je pense qu'il serait erroné de parler de commémoration. En revanche, je trouve la catégorie de Ricoeur de travail de mémoire, mais c'est un travail à la fois littéraire, documentaire...
Au sens du travail de deuil, c'est ça.
Au sens, oui, qui consonne avec le travail de deuil, et qui implique un travail documentaire, un travail... qui est à la limite de l'histoire, de la mémoire, voilà.
Mais alors, les politiques
de la littérature.
Jean-Louis Genel, vous parlez vous-même de politique de mémoire, mais vous soulignez justement donc politique de mémoire prise en charge par l'État. Quelles ont à la fois, vous permettez à la fois le rôle de favoriser le souvenir, mais aussi de l'encadrer et de l'obstruer.
Mais ça, c'est le rôle de l'État. Mais attention, là, on parle de professeurs de français dans le cas de De Gaulle, les mémoires de De Gaulle, et leur rôle n'est pas d'ordre commémoratif. Leur rôle est relève de ce que effectivement Ricoeur appelle travail de mémoire, mais d'un travail très particulier qui est celui d'une étude, d'une lecture critique et distante d'un texte qui, lui, a une fonction de type, alors commémorative, mais très fort, de construction d'une sorte de geste politique et historique. Donc, dans le cas des professeurs de français, et c'est pour ça que le premier article, l'un de ceux qui ouvre le numéro, est un article de 3 professeurs de français, Isabelle Gary, Marie-Françoise Ledet et Agnès Vinas, qui ont été, avec d'autres, à l'origine de la protestation et de la pétition. Donc, qui ont une lecture très, très critique des mémoires de De Gaulle. Et leur article est tout à fait formidable. Il montre très bien dans quelles conditions il est possible ou difficile, délicat, d'étudier ce texte. Donc, de ce point de vue, le numéro n'est pas une défense du texte lui-même en tant que tel, il est avant tout une réflexion sur ce qu'implique le fait de lire des mémoires à l'heure actuelle. Un genre relativement oublié.
Mais justement, vous soulignez vous-même dans votre introduction que ce qui est très bizarre, c'est que si je vous ai bien compris, que les mémoires comme genre, finalement, sont sorties de l'intérêt de professeurs de littérature.
De professeurs de français.
Mais voilà.
Plusieurs raisons.
Je reprends ma question. Est-ce que la mémoire maintenant, les mémoires, ça n'intéresse que les historiens?
Même les historiens ne s'y intéressent plus, à vrai dire. Beaucoup, ils s'intéressent aux documents, ils ne s'intéressent plus tellement aux monuments. Le mémoire, c'est un genre relativement monumental. Mais de ce point de vue, c'est une erreur, puisque le genre, lui, n'a pas décliné dans la production même. Il y a eu un déclin des mémoires qui correspond à la Troisième République, et donc à une sorte de professionnalisation du personnel politique. Les mémoires, avec la Seconde Guerre mondiale, et notamment les mémoires de guerre du général de Gaulle, mais pas uniquement, bien sûr, est redevenu un genre absolument extrêmement fécond, et on connaît une période où trois derniers grands succès éditoriaux, ce sont 3 mémoires, Les Lièvres de Patagonie, les mémoires de Daniel Cordier, extraordinaire, alias Caracalla, ou d'autres, j'oublie le 3e composition française de Mona Ouzouf, qui est aussi alors un genre très, enfin une forme très particulière de mémoire, mais qui relève quand même relativement des mémoires. Donc, de ce point de vue, il y a vraiment une actualité du genre, et il me semble que le genre a été oublié pour une raison assez simple, c'est le succès de l'autobiographie, et le fait que le modèle d'analyse des récits de soi est devenu celui de l'autobiographie, c'est-à-dire du récit intime, de la quête d'intimité.
Comment vous l'expliquez
C'est lié à une sorte d'évolution, il y a l'idée que la modernité. C'est quelque chose de très progressif. C'est le fait que les écrivains eux-mêmes, à une certaine époque, à l'époque qui correspond à celle de Gide, grosso modo, Léris, Gide, Léris, Sarraut, se sont détournés d'un genre qui était perçu comme trop monumental, trop entaché de politique, donc à cette époque, et que la modernité littéraire s'est vue incompatible avec ce modèle qui était hérité plutôt de l'époque, soit classique, soit romantique, jusqu'à Chateaubriand. Donc il y a ce point fort, mais il y a une autre modernité qui est celle d'un Malraux, par exemple, du Miroir des Limbes de Malraux, qui redonne une modernité très grande au modèle des mémoires.
Mais le choix même des anti-mémoires, en fait, du titre.
Mais alors le titre même anti-mémoire signifie non pas refus du modèle des mémoires, c'est surtout en réalité ça signifie surtout anti-autobiographie, un refus de l'autobiographie de ce que Malraux appelait le petit tas de secrets, très fort chez Malraux. Anti-mémoire doit se comprendre comme déconstruction du modèle des mémoires. Il y a une très grande proximité avec De Gaulle. Vous savez que l'un des volumes du Miroir des Limbes, c'est précisément Les chaînes qu'on abat, qui est le récit de la dernière visite de Malraux à De Gaulle. La boisserie. Il y a une très grande proximité, une sorte de dialogue continuel, mais exactement comme le dialogue qui se trouve au cœur des mémoires de Chateaubriand, d'Outre-Tombe, des mémoires d'Outre-Tombe, avec Napoléon, dont il reconstitue l'histoire. Donc il y a une installation en quelque sorte de l'épée au cœur même de ce texte qui est celui de la plume, de manière à en déconstruire aussi et à en complexifier afin de l'ouvrir à la littérature le modèle. Donc de ce point de vue, il y a une modernité des mémoires qui a été oubliée un petit peu par les professeurs de français et l'idée était de montrer que les mémoires sont à égalité, genre égo-historique, sont à égalité avec l'autobiographie, une sorte de pôle des récits de soi et qu'ils sont essentiels pour comprendre la manière dont les individus peuvent se raconter. Ils ont, de ce point de vue, une fonction politique.
Et alors, pour élargir la question que je vous pose à tous les deux, comment vous expliquez que la mémoire ou le souvenir, en tout cas l'approche du passé, est prise en charge aussi par la fiction? Vous citez Jean-Claude Monod, aussi bien des films que des ouvrages, notamment sur la guerre d'Algérie. On peut penser à la Première Guerre mondiale avec le film Indigène. Comment se fait-il que la fiction s'empare de ce travail du passé?
Je pense que précisément, parce que la mémoire n'appartient pas simplement à la collectivité. D'ailleurs, la notion de mémoire collective est éventuellement discutable. Enfin, dans ce numéro d'Esprit, on revient aussi sur cette notion, notamment du sociologue Maurice Halbach. Et bien sûr, chaque individu a aussi son rapport au passé, son rapport à la mémoire et la fiction. Alors, je pense qu'il y a aussi simplement un phénomène ici, un phénomène historique, qui est que les derniers témoins éventuellement de certaines époques disparaissent et donc prend le relais une génération qui n'a pas vécu les événements en question, mais qui vit en même temps dans ce régime où le passé a une grande importance. Et bon, je trouve intéressant le fait, indépendamment éventuellement de la qualité même des livres dont on peut discuter, mais que des gens comme Yannick Enel dans Yann Karski, dans son roman, roman entre guillemets, Yann Karski, ou bien sûr Little avec Les Bienveillantes, ou il y a le livre HHH de Binet, qui sont des livres sur, en l'occurrence, la mémoire du nazisme et de ses effets, qui sont écrits par des gens nés dans les années 70,
qui n'ont pas vécu la période.
Et là, ce sont des fictions à la limite, mais je trouve intéressant en ce moment, justement, peut-être les choses les plus novatrices se font. Enfin, je dis pas ça en tant que critique des historiens, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se noue à la frontière entre histoire et fiction, dans des zones un peu incertaines et dans des expérimentations qui sont à la limite. Il y a un texte de Jacques Rancière qui s'appelait La fiction de mémoire, qui porte sur un grand cinéaste qui s'appelle Chris Marker, en l'occurrence sur la mémoire soviétique relue, mais sur un mode qui implique le sujet, peut-être de manière plus forte, même si ça passe par la fiction. Donc il y a quelque chose là, je pense, qui est très intéressant dans l'expérimentation de nouvelles formes à la limite entre histoire, parce que souvent c'est des ouvrages qui impliquent une grande documentation, donc il y a cette phase documentaire dont parlait Ricoeur comme caractéristique du travail historien, qui est quand même présente là dans le travail romanesque, dans le travail de fiction ou dans le travail cinématographique, et en même temps il y a une liberté prise par rapport à l'histoire dans un travail d'imagination, de reconfiguration qui, voilà, et je pense que ça va cesser de se développer. Et ce qui était intéressant aussi d'ailleurs, c'était les réactions contrastées des acteurs de l'époque ou de gens qui avaient construit un travail plus historique. Par exemple, Nora, lui, a défendu plutôt les bienveillantes. Lanzmann a été plutôt critique vis-à-vis de Yann Karski. Donc, et Sumprun, par exemple, a été très positif en disant que c'était, au fond, si on voulait que cette mémoire reste vivante, maintenant, c'était peut-être le canal de la fiction, le travail littéraire qui allait assurer cette vie, plus que le travail de témoignage qui, de fait, simplement chronologiquement, ne peut plus être émis par des gens qui disparaissent.
Nous nous retrouvons après une respiration musicale. À tout de suite.
Thank you.
nous revoilà dans la revue des revues, consacrée aujourd'hui à la question de la mémoire, puisque deux revues que j'ai choisies, la revue Esprit de janvier 2011 sur la mémoire des guerres au XXe siècle et la revue Les Temps modernes de décembre 2010 sur De Gaulle, la France et la littérature, nous amènent à s'interroger sur les raisons de la commémoration, qui doit commémorer et quoi commémorer. Jean-Louis Janel, j'en étais donc à la question de savoir comment se fait-il que la fiction aujourd'hui, on a l'impression que ce soit de la fiction cinématographique ou littéraire, s'empare de la connaissance, alors je ne sais pas si c'est connaissance du passé, en tout cas d'un intérêt pour le passé.
Je ne pense pas qu'il faille s'en étonner, à vrai dire. Il y a des conditions socioculturelles très certainement, mais à vrai dire, c'est un phénomène tout à fait ordinaire. Au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, il y a eu comme ça des vagues de ce qu'on appelait le roman mémoire, mémoire apocryphe, de toutes sortes de noms, de termes génériques, mais qui relevaient d'une sorte, après une période d'engouement pour les mémoires, d'un désir de passer du côté de la fiction et une sorte d'appropriation par la fiction de ce modèle-là. On le voit très bien chez Balzac, par exemple, qui évoque ce phénomène des romans mémoires. Donc, aujourd'hui, les bienveillantes se présentent comme des mémoires au tout départ. C'est un homme qui est censé raconter à la fin de son existence ses mémoires un peu paradoxaux, d'un statut un peu paradoxal. Donc, de ce point de vue, c'est un phénomène tout à fait ordinaire, je pense, et dont il ne faut pas s'étonner. Et c'est effectivement une chance, en réalité, que la fiction puisse s'approprier.
Même pour les événements collectifs, enfin, parce que évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais si la fiction s'empare du passé, qu'est-ce qui va garantir la vérité, l'objectivité d'un événement? Pour des générations, j'imagine un élève, un collégien, est-ce qu'on n'est pas... On court pas le risque finalement qu'ils se disent tout ça c'est du roman, ça n'a pas existé finalement.
Je pense que ça implique un peu la responsabilité de l'écrivain. Enfin, il ne s'agit pas de dire. Bon, Yannick Enel dit tout est permis dans la littérature. Bon, il y a un moment effectivement où la question d'un certain respect de ce qu'on sait, de ce qu'on peut savoir factuellement, s'impose sans doute à l'écrivain qui s'empare, notamment, moi je pense, Yann Karski, par exemple, une figure donc historique de témoin qu'on voit dans Shoah, etc., se mettre dans sa tête, lui faire dire des choses, c'est peut-être là, à mon sens, c'est jouer sur une limite, non pas tellement le problème de l'indistinction et qui ferait qu'on ne saurait plus se retrouver entre le réel et l'irréel, mais plutôt, voilà, est-ce qu'on peut, par exemple, faire dire à un acteur historique des choses en s'autorisant la liberté de l'écrivain, quelqu'un qui a lui-même parlé et qui a écrit, bon, c'est ça, là, je pense qu'on touche peut-être des limites, mais je pense que c'est des limites qu'on ne peut pas fixer a priori, c'est des limites qui touchent à une sorte d'éthique de l'écriture. Enfin,
je sais pas. Oui, et puis la fiction a aussi une forme de vérité qui n'est pas de l'ordre de la vérité factuelle, mais qui est de la vérité par l'exemplarité, par l'emblématicité, c'est-à-dire une vérité qui est celle d'un modèle de conduite, d'une façon de penser qui peut être généralisable ou non, mais qui est une sorte une façon de penser par le biais du comme-si, une façon de se transposer, de se projeter dans des situations dont on sait qu'elles ne sont pas avérées, mais qui ont une forme d'exemplarité et qui, de ce point de vue, désigne aussi une forme de vérité. Donc la fiction n'est pas forcément mensongère de ce point de vue, et c'est aussi l'un des rôle des professeurs de français que de montrer la forme de vérité très particulière qui est celle de la fiction.
Mais même quand elle s'intéresse vraiment à des événements passés ou à des événements majeurs, évidemment, là, comme le génocide juif pendant la Deuxième Guerre, vous ne voyez pas de risque de confusion. Là, je parle d'une confusion des genres et d'une confusion dans la compréhension. Puisque vous dites vous-même que quand il n'y a plus survivants, est-ce que...
Bien sûr, c'est pour ça. Non, mais moi, je pense que ça participe bien sûr de la liberté des écrivains. Mais la liberté ne va pas sans une certaine responsabilité. Oui. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le passé, bien sûr. Et au fond, mais je pense qu'on peut simplement décider cas par cas, en fonction de la réussite esthétique, et presque... C'est Wittgenstein, un grand philosophe viennois, qui disait qu'éthique et esthétique sont une chose. Mm. Et je pense que ça se vérifie pour un certain de ses romans ou films, où parfois on a l'impression qu'une frontière est franchie, mais on ne peut pas le décider a priori, on peut le voir, on peut le percevoir, et il faut lire ces livres pour voir ce que l'on éprouve à leur lecture. Et certains, je pense, passent très bien cette épreuve. On se dit, voilà, là, quelqu'un réussit à restituer presque une dimension de l'expérience que même des historiens n'arrivent pas à restituer, peut-être justement cette vérité littéraire. Et d'autres, on a l'impression qu'ils quand même, ils prennent ça un peu à la légère, ils traitent d'événements historiques sur un mode qui fait basculer ça dans quelque chose, soit dans le kitsch, qui est un problème esthétique, soit dans l'irresponsabilité, qui est un problème éthique.
Tout dépend, en fait, d'une bonne dialectique dans les rapports entre historiens et littéraires, à vrai dire. Chacun a son rôle de ce point de vue. Et de ce point de vue, c'est tout à fait vrai, éthique et esthétique sont tout à fait liés. Il faut se rappeler la critique que Rivette avait faite du fameux plan d'Emmanuel Riva dans Capot, mourant, mais de façon dramatisée, et qui lui semblait obscène.
Le
travelling avant sur la main d'Emmanuel Riva électrocuté sur les grilles. Donc de ce point de vue, il y a toujours et lorsqu'on est dans l'esthétique, on est au cœur de l'éthique de ce point de vue. Et il me semble que la critique cinématographique dans ce cas-là, mais aussi littéraire, n'oublie jamais cette dimension.
Oui,
donc il y a une vigilance tout de même,
mais
très grande.
Éthique et esthétique, j'entends bien, mais il manque le travail scientifique de l'histoire.
Non, il est fait par les historiens.
L'objectivité de l'histoire, voilà.
Il est fait par les historiens. Et de ce point de vue, le fait d'avoir mis les mémoires de guerre du général de Gaulle au programme conduit à des collaborations. Mais elles sont faites, de toute façon, les professeurs les font très souvent, conduit à des collaborations entre professeurs de français et professeurs d'histoire qui sont tout à fait nécessaires.
Ça va être un mythe d'après les...
Alors, c'est un mythe, non, c'est difficile à mettre en place. Elles ont raison, c'est difficile à mettre en place.
Si j'ai pas compris la contribution des professeurs, c'est vraiment un vœu pieux.
Ça relève, parfois du vœu pieux, je suis tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important.
Ce serait nécessaire pour une œuvre comme ça, parce que ça implique quand même des connaissances historiques.
Énorme.
Et pour revenir à notre première interrogation, à qui vous confieriez le musée de l'histoire de France? À des historiens, à des professeurs,
Il faut bien
à des cinéastes, à des écrivains?
Des historiens, et d'ailleurs des historiens variés. D'ailleurs, il y a ce mouvement qui est visiblement celui maintenant du ministère, qui est de confier un vrai pilotage à des chercheurs, à des historiens de sensibilités politiques diverses et qui témoignent de toute la difficulté à partir du travail des historiens, de construire quelque chose comme une histoire nationale. C'est une interrogation des historiens, et quand même une grosse réflexion des historiens, et pas seulement de Pierre Nora, de beaucoup d'autres, sur ce que c'est qu'aujourd'hui construire une histoire nationale qui ne soit pas une mythologie nationaliste, parce que c'est tout le problème. C'est comment, c'est plus nos ancêtres les Gaulois, et c'est plus non plus le rôle positif de la colonisation, me semble-t-il. Il y a quand même eu une révision.
Et pas seulement critique. Le rôle négatif de la colonisation.
Non, c'est-à-dire, il y a une diversité des points de vue qui fait partie de l'objectivité historique. L'objectivité, ça n'est pas un discours unique sur les événements, c'est le fait de faire place à des pluralités de points de vue. Et du coup, le musée d'histoire de France n'est peut-être pas impossible, mais il doit intégrer vraiment cette pluralité et cette déconstruction du mythe nationaliste. Ce qui ne veut pas dire éventuellement ne pas montrer les grandes pages de l'histoire de France, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que seule l'histoire critique, pour prendre cette catégorie de Nietzsche, a droit de citer. Au fond, l'histoire monumentale a le droit aussi de citer, et on a le droit de célébrer, de marquer qu'il y a eu des héros, qu'il y a eu des grands écrivains, qu'il y a eu des choses magnifiques dans l'histoire de France. Mais c'est une dialectique là aussi, je pense, entre historiens. Alors peut-être qu'effectivement il faudrait davantage associer aussi des artistes, des points de vue.
C'est ça qui sort de ma question. Parce que si je vous comprends bien, pour vous, le commémoration, mythification,
c'est un point de vue.
Moi je suis tout à fait réservé sur l'idée d'un musée d'histoire de France, et je trouverais beaucoup plus intéressant effectivement qu'on ait un musée dans lequel il y a avant tout des œuvres d'art, des œuvres, puisque là on peut faire une histoire. Des représentations cinématographiques, picturales, ce serait très intéressant, picturales ou littéraires.
Un musée de la représentation de l'histoire de France ou
un musée de la représentation. Ce serait ça, un musée de la représentation artistique de l'esthétisation. Mais à vrai dire, ce serait beaucoup plus faisable, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus juste de ce point de vue.
Mais l'idée de. Parce que qui dit musée dit une certaine manière d'inscrire dans des vitrines, enfin il y a une mise en scène très forte. L'idée même d'un musée, ça ne vous choque pas?
Ah non,
c'est
l'idée de vouloir muséifier l'histoire qui me choque, à vrai dire, qui me paraît un petit peu aberrante. C'est cette idée qu'on puisse la prendre directement, c'est-à-dire l'idée que ce soit l'histoire elle-même qui soit dans un musée. Ce sont avant tout des mémoires qui sont dans des musées, des espèces de univers, des portions d'histoire, mais l'histoire elle-même L'histoire de France, de quelle France, est-ce qu'on parle? Enfin, donc, ça devient quand même très compliqué.
Donc, musée des mémoires, des représentations des mémoires de l'histoire de France.
Mais on est obligé de dire tel quel, mais à vrai dire.
Bon, on va essayer de proposer ça, si on peut, à notre ministre. Je vous remercie, Jean-Claude Monod, pour le dossier que vous avez proposé à la revue Esprit de janvier 2011, que faire de la mémoire des guerres du XXe siècle, et Jean-Louis Genel, donc vous avez coordonné le dossier des temps modernes de novembre-décembre 2010, De Gaulle, la France et la littérature. Je ne sais pas si la question de la mémoire apparaîtra dans le prochain numéro dont on m'a dit qu'il porterait sur les Antilles. Et donc, merci beaucoup. Et je signale aussi votre ouvrage « Écrire ses mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau », quasiment un sous-titre, connotation gaullienne, chez Gallimard.
Ça me poursuit.
Je voulais signaler aussi à nos auditeurs, puisque dans les revues, il était aussi question de livres, l'ouvrage très indispensable de Robert Darnton, le célèbre historien américain du livre, Apologie du livre, Demain, Aujourd'hui, Hier, là aussi un joli sous-titre pour interroger notre rapport au passé. Et puis, il n'est pas question de guerre du XXe siècle, mais de guerre en philosophie. Le bouquin de Pierre Bourets, D'un ton guerrier en philosophie, Habermas, Derrida & Co., tous deux parus chez Gallimard dans la collection Essai. J'ajoute une dernière chose, on a parlé pas mal de Ricoeur aussi dans l'émission. Le fonds Ricoeur édite depuis déjà un an ou deux, je crois, Jean-Claude Monod, au Seuil, des inédits, des conférences, des cours, très précieux. Le dernier,
cours sur la psychanalyse, voilà, d'un cours sur Aristote et Platon.
Voilà, sur l'herméneutique. Dernier paru un peu pointu, parce qu'il porte sur Platon et Aristote. Mais je vous l'ai signalé que le Seuil a pris en charge avec le fonds Ricoeur l'édition d'un ensemble encore énorme, je crois, d'inédits et de documents encore non accessibles au public du philosophe Paul Ricoeur. C'était la Revue des Revues, une émission de Brice de Villers. À la prochaine fois. Merci.